année débute un grand anniversaire, les 20 ans du manga, donc ça nous ramène en 1989, mais il faut savoir que bien avant ça, quelques essais malheureusement infructueux ont été faits en France. Alors, le vrai début, hein, ce qu'on pourrait appeler la préhistoire du manga, débute en fait en 1969. Alors, pendant que la Russie et les États-Unis essayaient de mettre un homme sur la Lune, 7 planches ont été publiées, alors sans licence, dans le Budo Magazine Europe, qui était en fait une revue consacrée au judo. Et il s'agissait de 7 planches d'un mangaka qui s'appelle Hiroshi Hirata. Hiroshi Hirata, il était déjà très connu à l'époque au Japon, il l'est encore maintenant, puisque c'est pas moins que l'invité d'honneur du dernier festival d'Angoulême. C'est un spécialiste de ce qu'on appelle le Gekiga, et le Gekiga, c'est une sorte de manga pour adultes, où il parle souvent dramatique, hein, et lui, il s'est spécialisé dans tout ce qui est samouraï et voix du Bushido. Oui.
Oui, j'ai une question à te poser avant qu'on s'embarque dans cette rétrospective énorme. Donc, dans ta rétrospective manga, tu vas nous parler simplement du manga papier, ou
alors,
est-ce qu'on parlera d'animation aussi?
Essentiellement du manga papier. Évidemment, par analogie, on parlera de temps en temps des séries animées qui ont fait la une avec les mangas, hein. Par exemple, ce sera difficile de parler de Dragon Ball sans parler de Dragon Ball, hein, c'est-à-dire sans parler de l'adaptation animée qui a enflammé les foules.
Oui, et en plus j'aurai quelques morceaux à faire passer entre deux, puisque effectivement nous avons un certain potentiel et un nombre de CD assez
Exactement.
Hallucinant sur cette période ô combien kitsch. Prolifique aussi, oui, effectivement. Et donc je t'en passerai à deux, trois. Je ferai une sorte de quiz.
Voilà,
un blind test, et tu vas voir, ça va pas être triste. Mais vas-y, suis-moi, continue donc. 1969.
Donc, voilà, avant d'arriver à tous ces titres, donc comme je disais dans les. Pour débuter l'histoire du manga, donc on commence, comme je vous disais, en 69 avec Hiroshi Hirata. Et donc Hiroshi Hirata, invité du salon d'Angoulême. Alors pour ceux pour qui ça dit quelque chose, ils ont pu le voir en librairie dans un recueil de nouvelles intitulé « Les incidents de Sakai et autres récits guerriers ». Donc il y a une série de nouvelles sur tout le Moyen-Âge nippon. Chez Delcourt. Donc ça a été le premier essai. Alors seulement c'était 7 planches mises telles quelles, je vous dis, sans licence, avec une qualité assez pauvre, et donc ça en est resté là. Donc c'était la première tentative. Après, il faut attendre quand même 3 ans avant qu'un autre magazine parle du manga. Il s'agit cette fois-ci sous forme d'un article dans le magazine Phoenix, un article intitulé « La bande dessinée japonaise » qui était fait à l'époque donc par un japonais et un français. Et cet article se composait de 2 pages de texte et 14 différentes planches du manga qui étaient là pour citer les grands mangaka de l'époque. Alors on retrouvera par exemple Osamu Tezuka, hein, qui publiait à l'époque Blue Triton, qui est arrivé en France depuis sous le nom de Triton chez Soleil. Donc 69-72, et puis après pendant 7 ans, plus rien. Rien de nada. 6 ans qui se sont achevés par l'arrivée d'un magazine qui s'appelle Le Cri qui tue. Donc Le Cri qui tue, un magazine où on a pu, pendant quelques numéros, découvrir là aussi les grands maîtres mangaka de l'époque, donc dont on parle maintenant que le manga s'est développé en France, dont on commence à parler maintenant. Notamment, par exemple, Glénat sort une collection vintage où il retrace les différents grands auteurs du passé, un peu comme on a eu nos RG et compagnie. Donc dans ce magazine Le Cri qui tue, on va retrouver par exemple l'auteur de Golgo 13, Takao Saito. On retrouvera également un autre titre de Tezuka, Demain les oiseaux. Et puis on va retrouver aussi du Yoshihiro Tatsumi avec Goodbye, ou encore Shotaro Ishimori, qu'on le connaît aujourd'hui pour Cyborg 009, qui est justement chez Glénat. Donc le créateur de ce magazine, Atos Takumoto, partait donc d'une bonne idée de départ. Le seul problème, c'est que ce fanzine était assez de mauvaise qualité, mal lettré, les couvertures restaient assez peu attirantes. Donc au bout du 6e numéro, qui était pourtant le plus réussi, l'aventure s'est arrêtée là.
Il faut dire aussi qu'on était dans une époque de BD expérimentale et de magazine sur la bande dessinée qui essayait de d'établir la bande dessinée comme un média sérieux, voilà, culturel, que ce soit sur la BD européenne avec des revues comme Phoenix par exemple, mais aussi sur la BD américaine, puisque à l'époque l'Écho des Savanes faisait des suppléments, des spéciales hors série USA, donc qui est devenu ensuite les Échos des Savanes USA. Qui était aussi des références. Et du coup, on était un peu dans... Il faut dire qu'effectivement, le Criquitu, les BD qui étaient publiés n'étaient pas non plus comment dire, abordables pour tout le monde.
Non.
Hein, c'était, il fallait avoir un peu de la bouteille et puis comment dire, être vraiment amateur du média graphique. Voilà. Ça n'a pas aidé non plus.
C'est ce qu'on va voir de toute façon tout au long de cette préhistoire, et les raisons de ces échecs, c'est que c'était abordé, le manga a toujours été abordé dans ces années-là, d'un point de vue connaisseur et surtout adulte, alors qu'on sait que le manga s'est installé en France grâce à un cœur de cible qui était plutôt au départ les adolescents. Donc jusqu'ici, donc toujours, on retrouve toujours des échecs qui s'empilent, mais alors il y a quelque chose qui va changer la donne, c'est l'arrivée dans les années 80 des séries animées télé. Et là, la première tentative se fera avec Candy, en fait. Candy, donc au début des années 80, qui va permettre en 82 à Candy, le manga, de sortir. Alors petit détail amusant, c'est que les planches ont été recolorisées avec des couleurs criardes exprès pour la cible visée à l'époque, donc qui était les gentils petits enfants qui regardaient Candy.
Voilà, donc alors que Candy, prototype du shoujo devant l'éternel.
Eh ben voilà, le premier shoujo. Hein, on avait donc, il y a eu quelques seinen, et là, ça a été le premier shoujo. Donc malheureusement, une fois de plus, la traduction, donc comme c'était censé être pour des enfants, on se contentait d'une traduction très approximative, des chapitres interrompus, enfin.
Publié dans le désordre et
obtenu dans la chance. Et donc, du coup, ce projet a été arrêté avant la fin. Alors, toujours en 82, il y a eu une autre tentative qui a été faite, mais là, plus dans le domaine du seinen. Il s'agissait de la sortie du premier tome de Gen d'Hiroshima. Alors, Gen d'Hiroshima, ce manga-là, il a toute une histoire, puisque, donc, première tentative en 82, chez les humanoïdes associés, qui existent toujours d'ailleurs. Problème, donc ce manga traite d'un enfant qui vit à Hiroshima dans l'Holocauste nucléaire. La qualité était correcte, mais c'était assez difficile de trouver un public qui s'intéressait donc à toute cette catastrophe. Et donc ça a eu assez peu de succès. Donc un volume seulement est sorti. Mais il y a une deuxième tentative de fait dans les années 90 par Albin Michel. Là encore, donc édition correcte, mais public mal visé, mal amené, et donc ça n'a pas marché. Et il y a une troisième édition qui a été faite, cette fois-ci en 2003, qui là a fonctionné, mais il faut dire que le public du manga était déjà bien installé en 2003, et on a même eu le droit pour cette troisième édition à une préface de monsieur Art, alors je vais mal le prononcer, Spiegelman, l'auteur de Mouse, les petites souris, Spiegelman, merci, Spiegelman,
Mouse. Intervention de Tony sur du manga, oh, énorme,
quel talent.
Sortez le champagne. Et donc voilà, c'était une autre tentative, Gen d'Hiroshima, qui a malheureusement pas trop marché. Une fois de plus, on s'orientait vers des mauvais publics. Et donc, entre Candy, Gen d'Hiroshima et toutes les tentatives précédentes, il faut savoir qu'en 82, il n'y avait pas beaucoup de sous, c'était un peu la récession, c'était des époques difficiles. Et donc, les éditeurs se sont dit, on a essayé. Ça marche pas.
Et bike. Oui. Vas-y. Et il y avait aussi le fait qu'ils n'avaient pas compris que le manga c'était un ensemble en fait.
Ah, c'était un ensemble, c'était une culture. Comme je le disais, ils ont essayé d'amener ça pour un public résolument adulte. En plus, ils amenaient des choses en noir et blanc alors qu'on commençait petit à petit à se vautrer dans la couleur, qu'on adorait la couleur qui était toute nouvelle. Et puis, on a sorti ça aussi, il faut savoir qu'on a sorti ça dans le sens de lecture européen, sans se poser la question, dans les formats européens. Alors donc on avait des planches extrêmement agrandies avec ce qu'on appelle les blancs tournants, c'est-à-dire le blanc qui entoure la page qui était énorme et qui rendait pas du tout justice à tous les dessins de mangaka, aussi beaux qu'ils soient.
Voilà. On peut pas dire que le dessin de Gen Hiroshima soit très beau, en fait.
Ah non, 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 non. Il est d'époque.
Voilà. Il est roots.
Il a de la bouteille.
Voilà, il est dur en tournure. On sent la robe.
Maintenant, effectivement, c'est rien de comparable avec ce qu'on voit actuellement. Mais bon, Gen Hiroshima, c'était avec Candy les deux premières tentatives de sortie manga à part entière, pas dans un magazine. Hein, c'était les premières tentatives, vraies tentatives éditoriales.
Voilà, et puis surtout, n'oublions pas qu'en 1984, hein, était invité au festival d'Angoulême aux Amoutezuka, qui venait présenter un de ses films. Je crois que c'était Phoenix ou quelque chose comme ça. Et dans l'indifférence générale.
Voilà, voilà. C'est vrai que après coup, tous les femmes de Zamutezuka peuvent s'ouvrir la veine.
Voilà, exactement.
Et donc là, on est arrivé en 82. Donc on se rapproche de 89 et de l'installation du manga avec Akira. On arrive en 85. En fait, il va se passer quand même 3 ans. Et là, c'est un monsieur qui s'appelle Georges Biedek, qui est éditeur. En fait, lui, c'est un éditeur de bande dessinée, mais dans un genre assez différent. C'est de la bande dessinée, ce qu'on pourrait appeler donc de gare italienne. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est surtout la BD gore et à caractère pornographique.
Oh, c'est pas le monsieur qui tient à Elvie France?
Si.
Ah, un grand homme. Un grand homme devant l'éternel. Voilà. Un jour, je vous raconterai son combat contre les comités de censure. C'est vraiment super drôle. Bref,
passons. Et donc, lors d'un voyage au Japon, il tombe sur quelques mangas, puis il s'est dit, tiens, j'aime bien, donc je vais prendre, et si je prends, je vais essayer de vendre. Et il va partir donc avec comme première histoire dans son magazine qui s'appelait Mutant, hein, à l'époque, il va sortir l'histoire Android, qui s'appelle Android, de Kazuo Koike. Alors Kazuo Koike, il est un petit peu connu puisqu'il c'est quand même le scénariste de Crying Freeman, hein, et qui a également travaillé sur Lone Wolf and Cub. Donc Kazuo Koike et Sesaku Kano. Donc cette histoire-là, c'est l'histoire d'un spécialiste des repos Android qui est malheureusement le pauvre impuissant et donc qui développe une double personnalité avec des capacités physiques phénoménales. Normal, il s'est trafiqué, il est devenu un Android.
Voilà, tout à fait. Voilà.
Et donc bon, voilà, il se balade de femme en femme, d'histoire policière en moment d'espionnage, à travers les États-Unis pendant plusieurs volumes. Et donc c'est pas inintéressant, mais là encore, bon, le public est pas forcément très au fait que ce soit du manga. C'est glissé dans un magazine, donc c'est aussi vite lu, aussi vite oublié.
C'est même du pocket, hein. On a vraiment la littérature de gare, hein. Les Hakim, Black et autres choses qu'on pouvait lire à l'époque, sauf que c'était pour adultes, hein, effectivement.
Donc c'est en général aussi vite lu, aussi vite oublié pour la plupart. Et il faut dire également qu'il était assez difficile pour un public non adulte, on va dire, de se lancer dans l'aventure, puisqu'on avait des couvertures qui étaient quand même assez explicites.
Voilà. Alors, ce qui était assez marrant quand on lisait ce manga-là, c'est que, donc, suivant la censure, donc, japonaise, où on ne peut pas montrer de poils pubiens, à l'image, donc, en fait, la partie de ce héros, donc, qui l'usait de manière assez récurrente, était toujours laissée en blanc.
Voilà, donc, le carré blanc.
Voilà. Alors, c'était vraiment bizarre, puisque, effectivement, par contre, graphiquement, c'est une BD super impressionnante, moderne, hein, dans moderne. Le sens où on peut retrouver un peu le trait qu'aura plus tard Ikegami, celui qui a fait entre autres Crying Freeman. Enfin, on est vraiment dans ce style graphique là.
On est vraiment dans ce style.
Voilà. Alors entre Gen Hiroshima et Android, il y a un saut graphique qui est quand même assez impressionnant.
Et pourtant, ça va rester dans l'oubli. Donc il y a Android, il y aura même une deuxième histoire publiée dans un autre magazine, Scorpion. Enfin. Le manga s'appelait Scorpion, c'est dans le magazine Rebelle. La même année, une série policière un peu plus sombre, mais qui, faute de public, une fois de plus mal casté, et puis d'adaptation à la franco-belge, on va dire, hein, n'enflammera pas les foules, quoi.
Voilà, donc on va faire une petite pause là, puisque j'ai trouvé une petite BO sympa, super connue. Bon, c'est de l'animation, hein, je suis désolé. mais en tout cas, ça rappellera des souvenirs aux gens de l'époque. Allez, hop, je le lance, je suis fou. I love you. c'était pour me faire plaisir. J'ai rarement l'occasion de le passer.
Souvenir.
C'est un souvenir de ma jeunesse. Donc, Leizu Matsumoto.
Voilà.
Si nous voilà. entends, et si tu pouvais arrêter de dessiner des suites d'Albator, s'il te plaît, ça serait sympa. Voilà.
Message personnel.
Message personnel, excuse-moi.
On était en 85 et les deux magazines donc où ils étaient publiés ces mangas érotiques, bah c'était en fait les premiers hentai, hein.
Tout à fait.
Voilà. On durait de janvier 85 à janvier 86. Et donc là on se rapproche et on arrive en 89, juste avant Akira, et chez Albin Michel paraît un livre, Les secrets de l'économie japonaise. En fait, c'est un livre illustré alors par Shotaro Ishimari, dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait Cyborg 009. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, c'était le modèle japonais, modèle économique japonais était encensé, puisque il faisait partie une montée fulgurante vers les premières places des puissances mondiales. Et donc, Albin Michel avait décidé de sortir cet album. Alors, le propos est assez complexe, mais traité sous forme de petites histoires, donc ça peut être relativement intéressant, mais là on est clairement en dehors du cœur de cible de ce que fait le manga, hein, c'est pas du tout pour les adolescents.
Alors ce qui est étrange aussi, c'est qu'effectivement cette tentative de manga utilitaire en fait, qui est vraiment basée de business manga. Voilà, va connaître une très très longue éclipse, plus longue éclipse que tous les autres du genre en fait. Exactement. Puisque ce n'est vraiment que très récemment qu'a été republié des séries donc de business manga, ouais. Qu'on peut trouver classé maintenant dans tout ce qui est emploi, économie. Mais ça a pris énormément de temps, effectivement, l'aspect manga jeunesse, manga adolescent a marqué de manière très très profonde en fait les habitudes de lecture des Français, en tout cas.
Exactement. Et donc, nous voilà arrivés à la fin de cette première partie, la fin de la préhistoire. Alors, avant de toucher deux mots quand même sur le début pour mettre l'eau à la bouche sur Akira, si on retrace une petite histoire rapide de ces 20 ans, on s'aperçoit qu'on a donc une erreur de fond, hein, des mangas pas du tout dans le, alors pas du tout hein, soit dans les bons magazines, pas du tout dans le bon format non plus, adapté. Donc on a voulu faire du manga à la franco-belge, donc ce qu'on pourrait appeler des erreurs de casting qui ont empêché le manga de correctement s'installer. Et donc l'absence également de médias autres, hein, tels que la télé, qui joue un rôle capital, donc ont empêché le manga jusqu'ici de s'installer correctement.
Très belle conclusion.
Et voilà. Et donc la prochaine fois, nous vous parlerons des premières années manga. Hein, alors ça n'a pas été facile au début.
Hein, ça pourrait être tous les jours facile.
Et donc Akira, Dragon Ball, Ranma, on mettra ça bien sûr en parallèle avec le club Dorothée qui a introduit cette histoire là. Alors
on peut difficilement parler du manga en France
sans passer par la case Dorothée.
Effectivement.
Donc toutes ces années 90 qui ont connu des vertes et des pas mûres, donc ça on se le garde pour la prochaine fois.